Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme. Ouais.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast de la bande à Baggio. Et cette fois-ci, on va parler des matchs qui ont lieu il y a un petit moment déjà. C'était Allemagne-Suède qui avait lieu avant-hier. Et avec nous ce soir, on a Loïc et Yesha. Comment vous allez, les gars?
Ça va très bien.
Salut tout le monde, ça va très bien de mon côté aussi.
En tout cas, on est content de vous retrouver. Et donc on va parler de ce match Allemagne-Suède qui a fait un peu débat parce que l'Allemagne empoche la victoire dans les ultimes arrêts de jeu face à la Suède qui aurait pu garder le confort de cette qualification pour le troisième match. Maintenant ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Alors Yesha, toi comment t'as vécu ce match-là? Est-ce que t'as pu le voir en entier en Angleterre?
Oui, j'ai pu le voir en entier. Alors, ce que je vais dire d'abord, c'est... j'ai envie de dire que l'Allemagne fait de la résistance, hein, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il faut savoir qu'il y a une mauvaise tradition pour les champions du monde, c'est que la Coupe du Monde qui suit, ils sont mauvais. Or là, on voit bien qu'ils essaient de faire de la résistance. C'est pas... comment dire, on sent qu'ils peuvent se qualifier. C'est pas comme la France en 2002 ou l'Espagne où ils étaient complètement largués. On sent l'Allemagne, ils essayent de pousser quand même. C'est vrai que ce match-là, le fait qu'ils le gagnent, ça montre qu'ils ont la niaque, ils ont envie de gagner. On savait que si ce match ils le perdaient, on savait que c'était fini. Et là, non, c'est vrai que le match à la dernière minute, enfin le but de dernière minute de Kroos, c'est bon, il arrive in extremis et surtout, bon, c'est dommage pour la Suède, hein, parce que est-ce que c'était vraiment une faute? Ça aussi, ça a discuté, mais non, ils ont vraiment poussé. Hein, et les Allemands, là, on attend un autre visage de l'Allemagne à partir de maintenant, parce que c'est vrai que le match perdu face au Mexique, ça en a surpris plus d'un.
Et c'est certain que... Excuse-moi, ouais, tu voulais dire quelque chose?
Non, je disais qu'en fait, après, l'Allemagne, sur ce match-là, ils ont vraiment dominé tout le match, même s'il y a eu quelques erreurs défensives et tout. Ils n'ont pas volé leur victoire quand même par rapport au Mexique qui ont vraiment mis en danger les Allemands. Mais là, sur ce match-là, ils ont poussé tout le match. Il y a eu combien de poteaux? Il y a eu aussi l'expulsion de Boateng qui les a un petit peu pénalisés pendant les 10 dernières minutes. Et comme disait, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai pas bien mémorisé ton nom, mais ton prénom, Yesha. Pardon, excuse-moi, que voilà, ils ont pas lâché. Malgré ça, ils ont pas lâché, quoi. Et c'est là où on voit les grandes équipes. Ils ont vraiment pas lâché.
Ouais, c'est vrai que dans l'histoire du foot, moi, à un moment donné, au milieu de la soirée, je me suis dit, attends, l'Argentine et l'Allemagne éliminées en phase de poule. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire des coupes du monde. Ça aurait été quelque chose d'inédit. Et puis les Allemands, vraiment, ils ont, c'est pas qu'ils ont eu un coup de cul, mais ils forcent le destin à chaque fois. On sait qu'on joue jusqu'à la 90e minute. Alors à une époque, les Anglais, ils étaient très forts pour faire ça. Bon, maintenant, c'est plus trop leur cas. C'est toujours en club que ça vaut le coup, je trouve. Les Anglais, voilà, faut se méfier jusqu'à la fin du match. Mais les Allemands en équipe nationale, c'est légendaire, quoi. Il y a depuis je sais pas combien d'années, quoi, ils nous font ça, quoi.
Mais ça reste, ouais, ça reste un petit peu cruel quand même pour la Suède, même s'ils se sont fait dominer tout le match. Mais je me suis surpris à supporter la Suède sur ce match, quoi. Je me disais, la petite équipe qui gagne la grande, etc. Bon, au final, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est un petit peu cruel pour eux. À la dernière minute, de prendre un but comme ça, c'est un petit peu cruel.
Mais est-ce que c'est pas un peu la victoire du jeu aussi contre la défense?
Ah voilà, voilà, exact.
Moi je pense que ça joue surtout sur l'expérience de ce genre de compétition, je pense aussi. Oh. Parce que c'est vrai que bon, la Suède a fait son match, hein, la Suède n'a pas démérité. Maintenant c'est vrai que l'Allemagne dans ce genre de match à haut risque, là ils étaient obligés de répondre présent.
Voilà, ils ont des joueurs d'expérience. Le groupe a déjà gagné une Coupe du Monde, etc. Donc ils savent faire quoi. Ils ont pas lâché. Donc après, à voir aussi pour la suite de la compétition, ils se remettent bien parce que dans leur charnière là, pardon, Boateng, Rudiger sur ce match-là, j'ai eu peur par contre. Hein, c'est la seule fausse note de l'Allemagne sur ce match-là quoi. Leur charnière centrale.
Ouais. Voilà, il y a l'expulsion de Boateng également dans ce match avec deux cartons jaunes. Très nerveux les Allemands sur la fin de match. On les a sentis vraiment à bout de ressorts tactiques. Ça s'est joué vraiment sur un coup de pied arrêté parce que finalement, tactiquement, l'Allemagne a tout fait pour enfoncer les Suédois dans leur camp. Mais les Suédois ont été habitués à ça depuis la phase éliminatoire contre l'Italie. À San Siro, ils ont passé 90 minutes dans leur camp à dégager des ballons, même en tribune. Alors, ils se trouvaient dans le même cas de figure et ils ont failli réussir leur coup. Hein. Bon, à la fin du match, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des membres du staff allemand qui sont allés
chauffer. Oui, il y a une tension.
Ouais, il y a eu des bagarres un peu, il y a un peu des échauffourées.
De légères échauffourées. Mais par contre, c'est là où on voit aussi les grands joueurs. Par exemple, Kroos, le mec, il a fait un match pourri, il n'a pas été bon. Et au final, c'est lui qui il prend ses responsabilités. Mais après, il fallait le faire. Hein, parce que là où beaucoup de joueurs ils auraient mis le ballon dans le pack, etc., lui, il a tenté direct et c'est passé. Non, mais pas direct. Il y a eu un léger décalage et tout. Mais et voilà, il l'a tenté.
Il fallait la mettre.
Il faut avoir les couilles à la 95e minute de la mettre.
Il fallait la mettre, celle-là.
Et c'est ça, le coup franc, si on a l'œil, ils vont jouer à deux dès le début. Hein. Ils posent la balle, ils savent ce qu'ils vont faire.
Ah, exact.
Et les Suédois sortent du mur le plus rapidement qu'ils peuvent, mais malheureusement, ils se. Comment dire, ils vont vers le mec qui a poussé le ballon et pas vers le tireur. Je sais pas, c'est pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils se seraient décalés d'un mètre sur la gauche. Ben, je pense que ça aurait plus gêné Toni Kroos pour la frappe. Et Durmaz, ben, voilà, c'est lui qui obtient la faute. Contre son équipe dans les dernières secondes et il s'est fait pourrir sur les réseaux sociaux et également en Suède. Sa famille a reçu des menaces de mort, je trouve.
Non, mais ça va loin, c'est clair. Ça... Ouais. Après, c'est le côté réseaux sociaux, quoi. Les gens vont trop loin, ouais, mais bon. Ouais. Rien de nouveau, quoi.
Durmaz, c'est un immigré turc, c'est ça, je crois, en Suède.
Ouais, voilà, il est turc.
Donc, c'est un peu comme Ozil en Allemagne. Ozil, si vous avez remarqué, il se fait taper sur les doigts tout de suite dès que la Mannschaft va très mal. Et Oliver Kahn a été un des premiers à le défendre en expliquant que justement, quand quelque chose va mal dans une équipe, il faut taper sur l'équipe et pas sur un joueur. C'est trop facile. Et franchement, Oliver Kahn, sur ce coup-là, c'est un grand homme parce que par rapport à tout ce qui symbolise en Allemagne, il a remis un peu les
chroniques,
les journalistes, voilà, les armées en place, ça fait du bien quand même dans le monde du football, parce que Ozil, c'est un sacré joueur, il peut pas jouer à 100% tous les matchs, toute sa carrière, c'est impossible, quoi.
Très utile,
c'est clair.
Il y a une stat qu'avait donné des gens sur Beansport pendant le match, c'est que Ozil était titulaire de tous les matchs de l'équipe nationale allemande depuis... 2012 ou 2014, je sais plus, mais c'est énorme quoi. Ozil, il a fait tous les matchs en tant que titulaire, donc c'est pas quelqu'un à qui on
peut. Ouais, il était sur le banc, ça m'a même surpris quoi, parce que d'habitude, comme tu dis, effectivement, il est toujours titulaire, qu'il soit sur le banc, ça m'a un petit peu surpris, mais bon, le sélectionneur a fait ses choix et voilà, après à voir comment ils vont faire lors des prochains matchs, on verra bien.
Parce que c'est ce dont on parlait avec Yesha et puis Nico l'autre jour, c'est que l'Allemagne en attaque, c'est limité parce que Timo Werner, c'est très très jeune, c'est sa première grande compétition avec une équipe nationale.
Et il jouait à gauche le dernier match. C'est un attaquant de pointe et il est à gauche. Quoi.
Il s'est décalé en plus parce qu'il y avait Mario.
Il n'a pas été mauvais, mais.
Il n'a pas été mauvais, mais ce n'est pas le joueur, je trouve, qui pourra porter l'Allemagne. Ce n'est pas un Trezeguet ni un Baptiste Touta. C'est... C'est trop jeune, quoi. C'est trop frêle encore pour porter.
Bah après, il faut dire que les cadres allemands aussi sont aux abonnés absents. Bon, on va pas revenir sur Boateng, mais quand tu vois Müller, depuis quelques temps, c'est pas tip-top, tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi au cadre de... Après, t'as des joueurs comme ça, quand ils ont déjà tout gagné, etc. Et peut-être qu'ils ont moins la niaque ou je sais pas, mais c'est à eux, au contraire, de leur, avec leur expérience, de tirer les jeunes, leur expliquer que voilà, la vie, c'est pas ça, quoi.
Ah, c'est certain. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé l'attitude aussi de Joachim Löw, qui a été serré la main de l'entraîneur suédois à la fin du match, malgré tout ce qui s'était passé avec la bagarre au bord de la touche, etc. Il s'est détaché un peu du contexte, et puis il a remercié surtout voilà, l'équipe de suédoise qui a livré une belle bataille pour garder ce...
Ouais, parce qu'il a gagné.
C'est bon pour l'image. Si tu prends l'attitude de son staff qui a été chambré ou méprisé, voilà.
Ouais, pas fou.
Il a été
ça redore l'image. Ça redore l'image de l'Allemagne, et puis voilà, le respect, c'est ça. C'est beau à voir.
Si vous vous rappelez Domenech à la fin de France Afrique du Sud en 2000.
Ouais, si je me rappelle. Je me rappelle.
Serrer la main.
À Pereira. Hein.
En même temps, c'est vrai que t'as raison, Loïc, qu'il avait perdu aussi. C'est pas la même histoire. Voilà. Non, mais c'était un beau match qu'avait vu l'ouverture du score de Toivonen sur un ballon piqué lobé par-dessus Neuer. Vous en pensez quoi de Neuer? Est-ce que vous pensez que c'est un gardien qui a retrouvé ses capacités ou pas?
Sincèrement, sur ce match-là, excuse-moi de te couper, mais sur ce match-là, il a été bon. Moi, j'ai trouvé qu'il a été bon. Après, avant le but, il y a eu aussi il pouvait avoir un penalty pour la Suède sur une faute de Boateng, mais ils ont pas sifflé. Bon, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait appel à l'assistance vidéo. Mais Neuer, pour venir à Neuer, il a vraiment fait son match. Moi, je trouve que il a sauvé 2-3 ballons quand même en deuxième mi-temps. Il a fait son match quand même.
Hein. Et toi, Yann?
Neuer, bon, non, il a fait un bon match. Je suis pas là pour le critiquer. Maintenant, c'est vrai que le fait de n'avoir pas joué toute une saison, le fait d'avoir beaucoup de matchs en moins, ça se sent. Je veux dire, c'est vrai que s'il avait joué toute la saison 2017-2018, je pense que on aurait vu un meilleur Neuer. Ce que je pense. Oh. Maintenant.
Après, ça peut être pénalisant sur la durée, ouais, effectivement. Sur la durée, ça peut. Ouais. Sur un match ou deux, il pourra tenir et tout, mais sur la durée de la compétition, peut-être que, comme tu disais, par bon manque de compétition pendant l'année, peut-être que ça va se faire ressentir.
Non, j'espère surtout.
Je te rejoins totalement.
Ouais, surtout que les matchs vont devenir beaucoup plus décisifs, donc je pense qu'il va falloir monter le niveau et assez rapidement, en fait.
Et est-ce que l'Allemagne est capable, justement, en ayant perdu Boateng, de remonter le niveau? Parce que Hummels derrière, ça va encore. Mais bon, après, je veux dire, c'est assez léger. À certains postes, hein, Khedira, il a été mis sur le banc de touche aussi. Il y a eu Ozil sur le banc. Il y a eu pas mal de cadres qui ont été remis en cause dès le deuxième match. Alors, est-ce qu'on va pouvoir recompter sur ces joueurs-là qui ont été vécus dans le team?
Sincèrement, ça peut être un élément fondateur ou pas, parce que là, quand on voit que le premier match, ils perdent face au Mexique, là, ils étaient dos au mur. Un scénario en Kobolensk à la dernière minute, il marque, etc. Ça peut être fondateur aussi pour la suite de leur compétition. Ouais. Donc, après, c'est comme je disais tout à l'heure, là, c'est au cadre de vraiment faire en sorte que tout le monde soit concerné et tout, quoi. C'est là, la balle est dans leur camp, quoi.
Ouais.
Bien sûr. Moi, je pense qu'on va pas. On va pas, comment dire, refaire l'historique de l'Allemagne en Coupe du Monde. C'est vrai que dans les phases de poules, ça ne détermine pas forcément ce qu'une équipe est capable de faire en dehors, c'est-à-dire en match à élimination directe. Maintenant, je pense que l'Allemagne, je pense que toutes les armes sont... Joachim Löw, je pense qu'il a toutes les armes de son côté. Je pense qu'il peut essayer de changer 2-3 trucs, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y a des cadres qui... Je pense qu'ils doivent rester sur le terrain. Maintenant, il faut faire 2-3 changements en défense, hein, parce qu'on a bien vu Boateng ne sera pas présent. Il faut quelqu'un qui soit capable de s'associer avec Hummels. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Hummels.
Je pense qu'il serait capable de... Il faut trouver la solution à ce niveau-là, au niveau de la défense. Maintenant, les cadres, je pense que ce serait une erreur de commencer à faire des changements, surtout en ce moment. Je pense qu'il connaît ces joueurs-là. Je pense que bon, on va pas. Oui, ils ont gagné la Coupe du Monde avec ces cadres-là, certes, mais
faut quand même des cadres, il faut quand même des joueurs d'expérience dans cette équipe d'Allemagne qui justement a beaucoup souffert hein, dernièrement. Donc je pense que c'est important de les garder.
Je tenterais bien Julian Brandt titulaire en attaque avec Timo Werner, parce que Brandt à chaque fois qu'il rentre, il nous met des frappes, mais ce mec il a une puissance de frappe, mais c'est wow. D'ailleurs c'est lui qui frappe sur le poteau, la frappe en demi-volée à Radon, magnifique là. Justement après t'as un joueur qui essaie de reprendre au point de pénalty mais il est hors jeu, il la met au-dessus tellement la frappe est soudaine et forte, il a pas le temps de la maîtriser cette frappe. Mais en tout cas, dans ce match-là, on a vu des belles choses. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un penalty qui n'a pas été analysé par la vidéo pour la Suède. Alors, bizarrement, voilà, on va dire encore une fois que c'est une équipe de seconde zone. Et finalement, la vidéo ne revient pas pour les favoriser. C'était Clément Turpin qui était notre arbitre de Ligue 1, qui était dans l'arbitrage vidéo dans le stade. Bon voilà, on sait comment il arbitre Turpin, il est très sévère et il a ses idées bien arrêtées, il est pas très laxiste. À mon avis, ça a un peu joué. T'en penses quoi toi Loïc, justement de cet arbitrage vidéo qu'on a vu avec le Brésil aussi, un penalty refusé pour Neymar, etc.
Ben, comme tu dis, après bon c'est vrai que je sais pas si ça favorise les grosses équipes et tout, mais c'est censé être quelque chose pour faire avancer notre football soi-disant, mais on voit quand même que on peut faire tout ce qu'on veut, il y aura toujours l'interprétation humaine quoi. Si les mecs dans le car ils signalent pas à l'arbitre que bon il y a peut-être quelque chose etc, et que au bout de quelques ralentis nous on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui peut être sifflé ou pas, il y aura toujours des débats pour dire oui il y a eu ceci, comme là maintenant quoi, tu vois, par rapport à la VAR on a quand même un débat malgré que ça soit quelque chose soi-disant qui doit faire avancer les choses. Au final on va toujours se dire bon ben c'est un humain qui a derrière, ben il peut se tromper aussi, donc ça va pas forcément arranger le problème totalement, en partie mais pas totalement.
C'est vrai qu'il y a une deuxième interprétation à donner à chaque fois. Et finalement, c'est un deuxième arbitrage avec lequel on se retrouve bien plus posé, bien sûr, parce qu'il n'y a pas tous les supporters, les joueurs qui crient autour de toi et pendant le match. Donc, tu es dans la petite chambre où il y a la télé avec 2-3 arbitres qui regardent les caméras, plusieurs angles de vidéo, etc. Mais on va dire dans 80% des cas, ça a été bénéfique l'arbitrage vidéo, ou peut-être 90% même, parce que l'équipe de France a gagné contre l'Australie avec ça. Il y a eu 2-3 autres matchs également où plein de pénaltys sont revenus, ont été sifflés. Bon, il y a aussi
Non, je crois que c'est que, comme tu disais, quoi, que le Brésil ou l'Allemagne qu'on peut se poser des questions, mais effectivement, pour le moment, c'est pas, y a pas grand chose de choquant non plus. Hein.
Non.
Pas grand chose de.
Non. Mais voilà, dans ce match, il y a eu une belle ambiance en fin de match, des supportrices, des supporters heureux et très déçus à la fin du match. Les Suédois ont très vite compris que finalement. Voilà, le troisième match, ça sera la Corée du Sud pour l'Allemagne et on prévoit un carton pour les Allemands face aux Coréens. Ouais. C'est pas encore joué.
Oui, mais évidemment, c'est
ça. Ça va être compliqué. Et puis le Mexique face à la Suède. Alors moi, j'ai une petite théorie, c'est que les Suédois vont sûrement battre les Mexicains à l'usure. Parce que les Mexicains ont donné tellement contre l'Allemagne que je crois que
ils ont tout donné.
Dans le wagon des équipes moyennes et petites qui vont très mal finir le troisième match, un peu comme les 5-0 et les 3-0 qu'on a vu hier avec Pologne-Colombie. Vous en pensez quoi de cette équipe mexicaine finalement après ces deux matchs?
Bah, je pense qu'elle est très. Elle est moyenne, bon, on va dire, elle a tout donné, hein, comme tu viens de le dire, par rapport à l'Allemagne. Mais maintenant, je crois pas. Au niveau du jeu, ils sont. Voilà, je trouve ça moyen. Hein. Moi, ce n'est que mon avis. Hein. Je trouve ça moyen par rapport à ce qu'ils ont pu proposer des années auparavant, comme en 2012, où ils battaient toujours le Brésil, où il y avait une certaine équipe, il y avait une certaine. Voilà. Là, on a l'impression que bon, ça puise dans les réserves. Bon, Hernandez, bon, ok. Mais non, c'est pas la même équipe, en tout cas. Elle me fait moins. Je suis moins inquiet par cette équipe de Mexique que celle qui était qu'on a vu en 2012 jusqu'en 2014.
Ouais. Je te rejoins totalement. Après, il faut dire que ces équipes d'Amérique du Sud, bon, même si le Mexique c'est plus central et tout, mais ces équipes d'Amérique du Sud, elles trichent pas quoi, en fait. Elles jouent à 200% tous leurs matchs. Après, il y a le petit mec à droite, j'oublie, Lozano.
Et Lozano, ouais.
Voilà, les deux, là, franchement, je les ai suivis vite fait en club, mais ces deux joueurs-là, franchement, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur.
Ouais.
J'ai un petit coup de cœur, mais après, c'est vrai que ça reste quand même moyen, quoi. Ça reste quand même moyen.
Bah, ça, c'est basé sur la vitesse, la spontanéité, et puis surtout
voilà.
L'engagement, etc. Mais le problème, c'est que ces joueurs-là, tactiquement, ils manquent un peu de...
Exact.
Ils posent pas leur jeu. Ils sont très dans le contre rapide, etc. Et ils maîtrisent pas leurs efforts. Et j'ai pas vu un match du Mexique où tu les vois faire tourner la balle en défense. J'ai pas vu ça.
Non.
Ça part à l'attaque et tombe en battant, et puis à la fin, bah, on a plus de souffle, hein, comme le Japon, etc., la Corée, et puis la Russie, c'est pareil, hein, on en parlait juste à la fin de l'émission. Et avant, il y avait Colombie-Pologne, et bon, Pologne, moi, j'avais annoncé que c'était la pire équipe de la Coupe
aucun
jeu.
Sincèrement, je suis déçu par la Pologne, parce que quand je... D'ailleurs, avant la Coupe du Monde, bizarrement, un soir, super tard, je suis tombé sur une rediff de sur Bein où les mecs parlaient de les Glick, les Lewandowski. Où... Après, ils ont fait une bonne session de qualification avant la Coupe du Monde. Ça pouvait peut-être amener des bonnes choses, mais les Glick et les Lewandowski, ça m'a surpris, quoi. Les mecs, ils étaient sûrs que voilà, ils allaient faire quelque chose, etc. Et tout. Et quand je vois ce qu'ils proposent pendant la Coupe du Monde, je suis super déçu. Quand je vois que Lewandowski, après, il tire à boulet rouge après chaque match sur ses coéquipiers, etc. Voilà, quoi.
En fait, la Pologne,
peut-être vu trop beau, quoi.
En fait, la Pologne, c'est simple. C'est bon. Déjà, je veux dire, chronique d'un échec annoncé. Ça, c'est la Pologne. Alors, je vais m'expliquer. La Pologne, c'est... On a bien vu à l'Euro 2016, c'était une Pologne qui avait de l'envie. On a bien vu contre l'Allemagne, ils ont joué, c'était parti en 0-0, je crois. Je me rappelle. En tout cas, ils étaient beaucoup plus actifs. C'était une équipe vraiment active. Maintenant, depuis un certain temps, on sait que c'est Lewandowski, l'homme phare de cette équipe. Je ne sais pas si vous avez vu, cette saison, il a quand même pris un peu la grosse tête. C'est-à-dire qu'il jouait moins, il râlait beaucoup plus avec le Bayern. Il demandait des augmentations de salaire. Il disait, voilà, en gros, même l'entraîneur l'a clashé en lui disant, il se prend pour Cristiano Ronaldo.
Ça devient.
Voilà, exactement. Alors que, bon, c'est Lewandowski, voilà, on sait qu'il est bon, mais de là à ce qu'il commence à avoir des caprices de star, non, pas encore. Pas encore, j'y crois pas. Donc, est-ce que cet abus de confiance, est-ce que cet orgueil naissant ne pénalise pas la Pologne d'aujourd'hui?
Ah oui.
Peut-être.
Ah oui.
Maintenant, voilà, donc je pense que ça s'est ressenti sur le jeu. Là, on voit bien que. Après ce mondial, quand il va repartir en Allemagne, on va lui dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Il fallait pas te la raconter, il fallait rester calme. Voilà, là, tu iras nulle part avec la performance que tu as sortie. On t'a annoncé au Real, là, tu vas aller nulle part. Tu restes au Bayern, au pire, tu retournes à Dortmund. Enfin voilà, il y a eu un. Je pense que dans sa tête, l'Eva, ça va pas du tout. Et voilà, résultat, la Pologne, c'est un fond.
Ouais,
voilà.
Et toi, Loïc, comment tu percevais, toi, la Pologne?
Je vais pas mentir, c'est pas une équipe que j'ai trop suivie pendant les qualifications et tout, mais je m'attendais à mieux quand même vu ce qu'ils avaient montré pendant l'Euro. Et j'ai pas franchement les matchs que j'ai vus ou les bouts de matchs que j'ai vus de la Pologne, j'ai pas trouvé qu'il y avait une cohésion d'équipe ou la Pologne. Voilà, si on sait que c'est Lewandowski le meilleur joueur, dès que tu coupes les lignes de passe pour Lewandowski, c'est bon, c'est fini. Et malheureusement, ça reste limité. La Pologne, ça reste super limité.
Ah, c'était
ça, super limité. Donc,
vous voyez les balles.
Ah, mais Kovia qui nous a envoyé des exocètes, mais tu savais même pas où ils... Des fois, il voulait faire une transversale, même quand il y avait un coach à côté de lui. Alors, j'imagine pas le mec à côté de lui qui le regarde et qui. Mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais?
C'est grillé, il suffisait juste de marquer le capitaine, c'était bon.
C'est clair.
Non, mais voilà, on a vu ce que Krikoviak faisait au PSG. On n'a pas compris ce qu'il faisait à Séville en ayant gagné 3 Ligue Europa, enfin, peut-être une ou deux, pas les 3, je sais plus. Mais c'est un joueur vraiment que c'est très moyen techniquement et tactiquement. Et tout le milieu de terrain de Pologne, c'est ça, quoi. Il se passe rien. C'est des mecs, quand ils ont le ballon, ils sont arrêtés déjà, ils attendent la balle, ils sont pas en mouvement. Et Lewandowski qui est devant, bah, c'est Zlatan de la Suède à l'Euro 2016. Voilà. C'est un plot. Et quand il a la balle, bah, il passe la balle à personne et il essaye de tirer. Donc, on se retrouve avec une équipe franchement qui était voilà, censée peut-être aller en 8e et finalement bah, ça sort dès le deuxième match contre une Colombie. Moi je suis content pour Falcao, je pense toi
aussi. Ah, sincèrement, bon, après étant monégasque, Bon, même s'il va peut-être partir cette année, mais je suis content pour lui parce qu'il a vu ce qu'il a vécu il y a 4 ans. Il n'a pas fait la Coupe du Monde par rapport à une blessure qu'il avait eue en Coupe de France et tout. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais qui joue ça, cette Coupe du Monde, ça lui tenait à cœur. D'ailleurs, il s'était même ménagé en fin de saison à Monaco pour pouvoir jouer cette Coupe du Monde. Ouais. Et qu'il marque ce but en Coupe du Monde, je suis hyper content pour lui. Après, même Rames, quand on a vu le Rames du match contre la Pologne, je l'ai trouvé vraiment bon. Vraiment bon. Sur ce match-là, Rames, je l'ai trouvé super bon. Donc ouais, après, voir la suite, quoi.
C'est vrai que la Colombie, moi j'étais vraiment peiné de les voir perdre face au Japon. Je pense que la manière dont ils ont perdu, c'est dommage. C'était vraiment dommage. Donc je m'attendais à un sursaut vraiment à une bonne leçon dans les vestiaires et hop, une victoire. Et ça s'est passé, bon, tant mieux.
Ils étaient tellement émotifs sur ce premier match face au Japon qu'ils ont fait des erreurs bêtes.
C'était un fiasco. Fiasco, vraiment.
Tu sais, moi, je suis inquiet pour la Colombie défensivement avec Mina et Murillo derrière parce que franchement, c'est pas bon du tout. Ils ont expliqué ça aussi par le fait que c'est des joueurs qui sont arrivés en sélection assez tardivement pour remplacer les Yepes, et etc. Et finalement, ils sont très jeunes et ils manquent d'expérience. Et tu les vois faire des relances par moments en touche. Si Rames ne demande pas la balle et qu'on ne le trouve pas, c'est compliqué de relancer, t'as l'impression, par moment. On a vu ça surtout contre le Japon.
Comme tu dis, ils sont jeunes, donc c'est là il y a une génération qui va sûrement sur la fin, comme Falcao, il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est à eux de tabler sur ça pour l'avenir, quoi. Pour l'avenir, mais c'est voilà quoi.
Mais l'homme du match, ça a été qui? Parce que moi, je mettrais bien Rames sur l'homme du match.
Rames.
On est d'accord. Hein, il nous a fait des. Il a joué juste à chaque fois. Il a fait un petit gris-gris ou deux pour justement se débarrasser d'un joueur. Mais à chaque fois, après, il passait la balle et il perdait le ballon.
Je pense qu'il est Rames, c'est un joueur qui est bon, qui peut être technique, mais c'est quelqu'un d'assez propre dans son jeu. C'est pas quelqu'un qui a des arabesques inutiles. C'est plus... ouais, voilà, exactement. Je pense que c'est quelqu'un. Si tu l'as dans ton équipe, tu sais qu'il va être correct. Au niveau des passes, et voilà, il va pas être selfish, voilà. Ouais. Égoïste.
Non, c'est... Après, son problème à Rames aussi, c'est que c'est un joueur qui est plus à l'aise en 10, c'est-à-dire en 10 à l'ancienne, etc. Mais malheureusement, il n'y a plus vraiment d'équipe qui joue avec un 10, un organisateur. C'est ça le seul problème avec lui, c'est qu'il faut adapter ton jeu à sa façon de jouer. Mais c'est clair qu'il vaut mieux avoir un Rames dans son équipe que de ne pas l'avoir encore.
Ouais, moi, ce qui m'a surpris aussi pendant ce match, c'est que même à 2-0, tu avais l'impression que les Polonais, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient éliminés. Ils n'avaient pas vu ce manque de sursaut d'orgueil. On aurait-il les équipes de France de 2010, quoi. Voilà, on perd 2-0, il se passe rien, quoi.
Je pense que ça s'est dégringolé. Je veux dire, c'est dommage. À l'Euro 2016, j'ai vraiment pensé que la Pologne avait un potentiel qui pouvait progresser.
Ouais,
mais là, ce qu'ils ont montré là... Même en perdant, ils donnent pas envie. Je pense qu'ils ont lâché l'affaire et non. On est déçus, mais en même temps, on se dit, est-ce que c'est pas mérité quelque part? Parce que vu le jeu pauvre c'est de ça. L'équipe et toujours ces relances tellement prévisibles, on a pu le voir. Hein. Mm. Non.
Après, il doit avoir aussi une cassure dans le groupe parce que comme je disais, le premier match et Lewandowski, il a fracassé ses coéquipiers. Le deuxième match, pareil, mais ça joue dans le groupe aussi. Tu vois, ça joue aussi dans le groupe. Donc. Peut-être qu'ils ne sont pas unis, effectivement, ça se ressent sur le terrain.
Ah, ça se ressent sur le terrain. Complètement. Je pense qu'on peut mettre sur le compte. Je pense que voilà, les gros égos comme Lewandowski, ils ont fait l'erreur dès le premier match de fracasser l'équipe alors qu'il fallait patienter.
Voilà.
Et tu vois, je pense que le coach de la Suède n'a pas voulu prendre Zlatan pour ces raisons-là aussi.
Bien sûr.
Ça aurait pu... Là, finalement, la Suède, ils se rendent au troisième match avec la chance de pouvoir se qualifier encore une fois. Alors que
ça leur arrivait jamais. Ouais.
Voilà, ça leur arrivait jamais. Quoi. En Coupe du Monde, je crois, en 2006, ils s'étaient fait sortir en poule, je crois.
En poule, ouais.
Après, j'ai pas d'autres souvenirs de cette équipe.
De toute façon, Zlatan qui voulait arriver, je pense, ça aurait cassé l'équipe parce qu'il arrive au moment où l'équipe s'est battue sans lui pour se qualifier. Le fait qu'il vienne comme ça, comme si, oh, qualifiez-vous sans moi, j'arrive. Non, je pense pas que c'est un. Je pense que ça aurait été un manque de respect pour ceux qui se sont battus pour cette qualification.
Non, mais après, moi, je pense que concernant cette histoire de Zlatan avec la Suède, je pense que c'était juste de la com. Je pense que depuis longtemps, il savait vraiment qu'il n'allait pas jouer la Coupe du Monde Et que voilà, mais après, c'est le foot, c'est ça. Hein. Tu peux pas te reposer sur un seul joueur comme pour Lewandowski ou la Pologne ou la Suède. C'est une équipe. C'est une équipe. Tu peux pas te reposer sur un joueur. C'est pas possible.
C'est vrai qu'on l'a vu. On l'a vu aujourd'hui, ça. Hein, parce que finalement, à Mohamed Salah, qui se retrouve avec l'équipe d'Égypte, c'est Messi. Hein, Messi, qui joue avec 10 mecs qui ont des jambes en bois, des pieds carrés. Ouais.
Je suis pas d'accord pour l'Argentine. Je suis pas d'accord.
Mais en tout cas,
il y a quand même du potentiel en Argentine. Les Di Maria, Agüero et compagnie. C'est...
Ouais. Mais en revanche, en Égypte, pour revenir sur Salah, franchement, c'est. Voilà, Salah, on en a parlé pendant un an. On disait Salah, ça allait être ci, ça allait être ça. Je pense que Salah, on lui donne trop de. L'image de celui qui va venir bousculer Cristiano Ronaldo et Messi d'un coup d'un revers de la main. En 6 mois, voilà, exactement. Alors que là, non, mais je veux dire, non, c'est pas possible. Et puis voilà, l'Égypte ne comptait que sur lui pour aller loin. L'Égypte qui n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de compétition, l'ultime compétition, non, je pense qu'ils se sont ramassés. En toute logique, ils vont sortir là. Je ne serais pas sûr. En défaite, non, je ne serais pas sûr.
Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite aujourd'hui 2-1. C'est quoi?
Pas surpris.
Non, mais c'est. Je pense que beaucoup de joueurs ont. Enfin, beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes ont vu l'équipe de Liverpool autour de Salah à la Coupe du Monde.
Ils ont. Exactement. Il y en a, il m'a fait rigoler, puisque juste avant le mondial, il avait dit arrêtez de penser que Salah, ceci, Salah, cela. Faites en sorte qu'il ait un match amical avec l'Espagne et que Ramos vienne pendant 30 minutes. Et après, il fera le mondial. Non, pour lui casser le bras encore une fois, mais bon, ça c'était une blague de quelqu'un. C'est pas grave.
Ouais, donc, ouais, non. Voilà, il y avait ce match-là, des matchs qui étaient en même temps aujourd'hui à 16h, et il y en a deux ce soir aussi, deux importants. Alors je pense que des gens vont suivre soit l'Espagne soit le Portugal, suivant leur nation préférée. Je pense que Iran-Portugal, c'est peut-être un peu plus intéressant, je sais pas, après on verra.
Ouais, moi je pense Iran-Portugal, ce sera intéressant dans la mesure où bon, Cristiano Ronaldo, il n'est plus à présenter, c'est quelqu'un qui est un compétiteur, donc il a vu que Harry Kane est une menace en termes d'attaque. Il en a 5 buts. Or là, lui, il sait qu'il en est qu'à 4. Il se dit, il va peut-être se dire, bon, Messi étant un peu out, il se dit, peut-être que ce soir, je peux peut-être essayer d'en planter. Il y aura une petite concurrence d'attaquants. Donc, ouais, non. Normalement, sauf accident, victoire du Portugal, un petit 2-0. Mais je vois pas, je sais pas, je vois pas le gros écart, même s'il est possible.
Ouais, pareil. Après, ça dépend de... Oui, vas-y, excuse-moi.
Non, je disais, sauf que je pense que on a le Portugal, les supporters du Portugal ont peut-être oublié que l'Iran, c'est une des meilleures équipes d'Asie et d'Afrique confondues. Si on regroupe les pays, on va dire, de seconde zone en Coupe du Monde, c'est une des meilleures dans ce chapeau-là. Et du continent asiatique, l'Iran, ça joue bien, hein, c'est vraiment une belle équipe. Je pense que sincèrement, ils ont tenu tête à l'Espagne, mais vraiment, l'Espagne a été surpris dans plein de domaines. Alors, est-ce que le Portugal, en jouant défensivement, en proposant pas de jeu, ils vont pas se retrouver face à qui donne la pièce, la monnaie de la pièce, quoi.
Non, c'est vrai, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, évidemment. Maintenant, après, comme c'est les derniers matchs, bon, est-ce que la vidéosurveillance va marcher en faveur de quelle équipe? Bon, quelle équipe on veut voir en... passer le prochain tour, bon, je pense que ça va se jouer aussi là-dessus. Hein. Bon, vous savez, à chaque fois, on nous a dit avant la Coupe du Monde, il y aura la vidéo de surveillance, ça va marcher. On voit bien que ça favorise certaines équipes. Bon, on va pas faire c'est un autre débat. Mais voilà, je pense sincèrement, hein, l'Espagne, le Portugal vont gagner, mais pas un gros score, je le sens pas. Non, je le sens pas.
Peut-être l'Espagne, hein, c'est possible, l'Espagne. Parce que
l'Espagne, c'est plus possible. L'Espagne, c'est plus possible. Mais le Portugal, non, je pense pas.
Parce que sincèrement, la Tunisie, c'est un peu plus fort que le Maroc. Et le Maroc, ça se désagrège en fin de match à chaque fois. Moi, j'y crois pas du tout, quoi. Alors, Hervé Renard, il peut gueuler sur 2-3 faits de jeu. Son équipe, elle n'est pas capable de mettre des ballons au fond sur 15 actions.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est clair, sur le dernier match, t'as qu'à voir, il y a Benatia qui se met à pratiquement devant. Le mec, c'est pas son rôle, tu vois. C'est pas son rôle. Donc, c'est. Après, comme tu dis, ils sont éliminés, donc sincèrement, je vois pour l'Espagne, ça va être tranquille. Ça va être tranquille.
Moi, je pense à une victoire de l'Espagne, et puis peut-être une victoire très difficile du Portugal, 2-1, ou peut-être un match nul, quoi, carrément. Mais...
Après, si l'Iran marque tôt, par exemple, ça peut emballer le match. Ça peut faire un truc assez sympa, franchement. Iran Portugal, s'ils marquent tôt les Iraniens, ça peut faire, franchement, ça peut emballer le match. Ça peut faire un truc sympa.
J'espère sincèrement qu'on aura du spectacle et pas des matchs nuls avec des passes à 10, quoi. Ça va être chiant pour tout le monde, hein. Même si l'Iran et le Maroc n'ont pratiquement plus rien à jouer, surtout le Maroc. On l'a vu aujourd'hui avec Uruguay-Russie, hein. Tu parlais de l'arbitrage vidéo et de l'arbitrage en général pour les favoris et les Russie s'est pris un carton rouge assez facilement par l'arbitre d'origine africaine, hein, qui s'est pas laissé faire. Hein.
Ah oui, non, mais en même temps, la faute elle était quand même assez...
Il a eu le courage de le mettre, hein, un peu comme un Turpin qui met un penalty au Barça là, à Rome. Très bien. Ouais, il s'est pas laissé faire l'arbitre lors de ce match, et l'Uruguay a remporté 3-0. Là on a vu une équipe de Russie complètement différente des deux premiers matchs. Sincèrement, Loïc, toi, comment tu vois cette équipe de Russie? Parce que c'est, pour moi, c'est un mystère.
Pareil, sincèrement, quand tu vois depuis comment ça joue depuis 2 ans, parce qu'ils n'ont pas eu de qualification et tout, c'est plutôt des matchs amicaux qu'ils ont fait. J'avais peur pour la Russie, même les médias russes et tout, ça désinguait leur équipe dans tous les sens. On vous demande juste de pas nous humilier, etc. Et à l'arrivée, ils font pas une mauvaise Coupe du Monde pour le moment. Le petit Golovin, il est vraiment pas mauvais. Je vais pas mentir, je le connaissais pas vraiment. Je me suis un petit peu renseigné sur lui parce que Monaco le suit et d'autres clubs, la Juve, Manchester. Et c'est un putain de joueur quand même. Hein. C'est le petit Golovin là, en Russie, là, c'est franchement une bonne surprise. Ouais. Vraiment une bonne surprise. Mais après, voir la suite en 8e, comment ça se passait, parce que c'est une autre compétition. Dès que c'est les phases finales, c'est une autre compétition qui commence. Donc, voir après. Mais je ne pense pas qu'ils vont passer les 8e. Hein. Sincèrement, je ne pense pas. Même s'ils ne passent pas, ils ont pas... Vu d'où ils partaient, ce sera pas un échec pour eux, quoi. Je vois pas ça comme un échec, quoi. S'ils se font sortir en 8e, ce sera dommage, mais c'est pas volé, quoi.
Ouais. Ils auront fait une belle Coupe du Monde sur la phase de poule lors des deux premiers matchs. Malheureusement, le 3-0, ça fait tâche, je trouve, quand même. Je trouve que quand tu es un pays qui joue à domicile, t'as pas le droit de te prendre 3-0 comme ça et de continuer à attaquer à tout va en faisant un peu n'importe quoi. Ils auraient pu se faire punir un 4-0 à un moment donné aussi à la fin de match. Suarez a gâché 2-3 occasions. Suarez, il revient bien, je trouve, par rapport à son premier match où il a été inexistant et nul.
Suarez, c'est quelqu'un d'assez versatile. Il est versatile. C'est-à-dire, c'est un peu un métronome. Hein. Un jour, je joue bien, je joue mal, je joue bien. Ces derniers temps, c'est un peu l'image du Barça. Hein. Je pense que quand il veut sortir un gros match, il le sort. On a pu le voir là. Maintenant, c'est pour ça que au prochain match pour l'Uruguay, voilà, il faut pas s'attendre à ce que Suarez soit aussi performant. C'est ça le risque de compter sur Suarez. Heureusement, il y a Cavani à côté, et encore. Ça dépend. Hein. Ces deux gros attaquants, est-ce qu'ils peuvent... Ils sont tous les deux bons, hein. C'est pas ça, je ne remets pas en question.
Est-ce que c'est complémentaire, quoi.
Voilà, exactement.
Il y a une chose qui est certaine, c'est que la Russie, je pense, voulait éviter l'Espagne en 8e, et malheureusement, ils vont jouer contre l'Espagne, et ça sera sûrement Uruguay-Portugal aussi.
Ah, ça sera une bonne...
Cavani face à Cristiano en 8e. Cavani, il a retrouvé le sourire, je trouve, depuis un ou deux matchs là, où il était assez stressé du début de compétition. Bon, il marque des buts de raccro, hein, mais il est là quand même.
Ouais, c'est ça. C'est bien. Principal. Un poacher.
Et est-ce que vous voyez l'Uruguay aller plus loin que les 8e ou les quarts?
Sincèrement, non.
Tout dépend contre qui ils tombent, mais ouais, non, je les vois pas. Non, les quarts sûrement pas. Non.
Ouais.
Parce que pour revenir au débat qu'on avait tout à l'heure là, je trouve pas une équipe unie, quoi. Je trouve pas que ça joue en équipe. L'Uruguay, pour moi, je trouve ça très très moyen. Très 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 moyen.
Ouais.
Il suffit que Suarez ou. Ouais, aussi. Aussi. Il suffit que Suarez ou. Pour finir, que Suarez ou Cavani soit pas bon. Et voilà, ça se ressent, quoi. Ça se ressent.
Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça manque de créativité, on va dire. C'est très rugueux, ça joue à l'ancienne. De toute façon, l'Uruguay, ça a toujours été une équipe très dure sur l'homme dans tous les matchs. J'ai vu en 2002 avec la France où ils avaient fait match nul, où il y avait eu des cartons rouges qui avaient été oubliés pour les Uruguayens. Bon, là, c'est, C'est un peu plus gentil, quoi, mais par rapport à l'arbitrage vidéo, il y a moins de fautes tactiques, on va dire, un peu à la Chiellini ou voilà, en équipe d'Italie ou à la Baresi à l'époque, ils mettaient des coups vraiment hors du jeu. Les Uruguayens étaient habitués à ça, maintenant ça joue un peu plus, mais c'est fermé quand même l'Uruguay. C'est vrai que les quarts de finale, c'est le maximum qu'ils pourraient atteindre, je pense. Ouais.
C'est vrai. Je pense là.
Vous voulez rajouter quelque chose au niveau des infos ou pas? Vous avez quelque chose à dire?
Moi, c'est juste, je vais juste revenir sur le cas, parce que c'est un peu le cas qui perturbe un peu tout le monde en ce moment. Là, tout le monde, c'est Messi. Franchement, je. Comment dire? Messi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'Argentine a quand même un talisman, quand même, hein, depuis Maradona, et j'arrive pas à comprendre. Cette équipe qui a Messi, mais en plus d'autres joueurs bons à côté de lui, et la mayonnaise ne prend pas, la sauce ne prend pas, je ne comprends pas. Et ce serait vraiment dommage qu'ils sortent des poules, parce qu'en plus ils ne sont même pas maîtres de leur destin, hein, on a bien vu. Hein. C'est pas parce qu'ils gagnent contre le Nigeria qu'il faut qu'ils regardent aussi l'autre match d'à côté. Si la Croatie a envie de les éliminer, ils les éliminent. Hein. Non, dans la mesure où s'ils se laissent battre par... l'Islande, bon, je pense pas. Ça dépend s'ils sont calculateurs, eux aussi. Normalement, l'Argentine ne passe pas. Hein. Donc, c'est... Voilà. Je trouve ça dommage. Et puis, j'ai remarqué que Messi, à mon avis, il vieillit moins bien que Cristiano Ronaldo, par exemple. Ah. Je le vois pas à 33 ans être comme Cristiano Ronaldo. Alors là, pas
après, sincèrement, pour moi, le problème, c'est que ça reste une bande de potes, tous ces petits Argentins-là, ça reste une bande de potes. Et quand je vois quand Mascherano, titulaire, il a rien à foutre là, excusez-moi, il est cramé. Il est cramé. Non, ouais. Le mec, c'est le pote à Messi, donc il est là et tout machin, mais il n'a rien à foutre là. Il a rien. Ouais. Mascherano, il est cramé depuis un an et demi, il est cramé. Ouais. Donc après, excusez-moi l'expression, ce qui me fait chier avec l'Argentine, c'est qu'ils ont le potentiel. Ils ont des joueurs pour jouer au ballon plus devant. C'est vrai que bon, le gardien et la défense, ça peut être limite, mais au milieu et devant, ils ont de quoi faire. Ils peuvent pas nous proposer ce football-là, je suis désolé.
Non, mais
Messi, c'est un peu de 3 ans.
Bah, en fait, Messi, c'est un peu. Il y a une blague qui est dite sur Messi, hein, c'est bien connu. C'est Messi qui est là, il veut sortir avec une fille, bon, il ambiance bien, il est prêt à coucher avec elle. Ce qu'il fait, vous savez ce qu'il fait? Il dit attends, j'arrive. Et on voit qu'il rentre avec Xavi et Iniesta. Il fait mais qu'est-ce que tu fais? Et Messi dit je peux rien faire sans ces deux-là. Je pense que excusez-moi, c'est un peu grossier le truc, mais ça résume assez la situation de Messi. C'est-à-dire, sans ces cadres autour de lui, on voit bien qu'il est un peu perdu.
Ouais.
Je veux dire, on voit bien, regardez, là, quand Xavi, il est parti, c'était un peu...
C'est le début de la fin, ouais, aussi.
Ouais, voilà, ça tremblait. Bon, il y avait encore Neymar, il y avait un peu le trio, là, d'attaque. Mais quand Neymar est parti, et en plus, Iniesta part, on voit bien que le Barça, ça va plus en finale. Ça va plus... vous voyez, on a l'impression que l'Argentine, c'est un peu le Barça de maintenant. Mmh. C'est-à-dire, Messi doit vraiment porter, cette fois, toute l'équipe. La preuve, c'est que maintenant... il joue plus en attaque, au Barça il joue au milieu de terrain, parce qu'on sait très bien que s'il est en attaque, derrière ça c'est bizarre. Donc enfin voilà, Messi c'est dommage, parce qu'on est en train de voir un peu ses faiblesses, et Ferguson l'avait bien remarqué, lui qui a de l'expérience, hein. Il a dit, Messi c'est un joueur de Barcelone, c'est-à-dire c'est un joueur, c'est-à-dire un joueur,
l'autre genre, ouais.
Voilà, exactement, et sans ce cocon-là, voilà.
Et toi Loïc, tu voulais dire quelque chose, non?
Je voulais juste parler de Pogba vite fait, sa conférence de presse m'a amusé, mais sans plus. Après, bon, il a fait le show comme d'habitude, il a fait le show avec son touché par mon grisi, machin, bon.
Ouais. Mais bon, vraiment que les journalistes, ils les aiment ou c'est ironique?
C'est un jeu, mais moi ça me fatigue un petit peu, parce que bon, ouais. Pogba fait, bon, je vais pas dire qu'il est fantomatique depuis quelques temps, mais les derniers matchs ont été plutôt bons. Mais après, il faut qu'il arrête son truc d'ego trip à parler à troisième personne.
Montre
aux journalistes que voilà que tu es bon. Après, tu t'en fous. Tu laisses les gens parler.
Ouais,
tu laisses les gens parler.
Pas justifié après.
Exactement. Moi, ce que je trouve.
Là, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est oui, je veux être un cadre. Je veux. Ça se demande pas. Le respect, tu le gagnes sur le terrain.
Exactement.
Ça se demande pas. Je suis désolé.
En fait, Pogba, moi j'ai un problème avec Pogba, c'est que le Pogba de la Juventus, il était prometteur, il était bon, même très bon par rapport à son jeune âge et tout. Maintenant, depuis qu'il est parti à Manchester, c'est trop de business, il y a trop de business.
Il y a trop de business. Bah, je le répète. C'est ça qui tue le foot déjà à l'argent. Bon, c'est un autre débat. Maintenant, sur le terrain. Oui, voilà, mais sur le terrain, ce n'est pas possible. Il parle beaucoup. On attend beaucoup de Pogba, on attend de lui que ce soit un nouveau Vieira, que ce soit un leader. Et justement, on attend toujours. Et c'est trop. Je parle beaucoup, mais sur le terrain, il n'y a rien. Je veux dire, moi, c'est dommage. Quand je vois Pogba, je ne m'attends pas à ce qu'il progresse du jour au lendemain. Je me dis, bon, on va voir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, on va voir.
Combien d'années tu vas attendre pour voir?
Ah là, alors là je pense sincèrement, après ce mondial-là, pour moi, c'est cuit, quoi. Je ne vais pas attendre l'Euro 2020, c'est ça? 2020, non.
Voilà. Mais le souci avec Pogba, c'est que quand on regarde bien Pogba, on peut le mettre dans au niveau de son positionnement, je parle. Hein. Bon, c'est l'équivalent d'un Iniesta, un Modric, c'est le même poste pratiquement. C'est un mec qui joue pas forcément 8, mais c'est un mec qui a la récupération, qui oriente le jeu, entre guillemets. Mais qui, vous voyez, à son poste, jouer comme lui? C'est-à-dire, le mec, il faut qu'il te fasse une roulette, il faut qu'il te fasse quelque chose. Bah, arrête tes conneries, relance propre. Tu t'en fous.
Déjà, Kanté...
Le mec, il veut faire le show tout seul.
Déjà, Kanté, il était mieux. Déjà, il faut souligner que Kanté était mieux que lui au précédent match. Il s'est même vanté, on en a parlé dans le précédent podcast, qu'il a dit aux médias « Ah oui, Kanté, il a bien joué, je l'aime bien. » Là, il a progressé comme s'il était au-dessus de lui, alors que pendant tout le match, il était largement au-dessus.
Voilà.
Donc déjà, qu'il commence pas à faire celui qui est un mentor, alors que non, tu diriges rien du tout. Voilà, moi, je pense que Kanté, c'est quelqu'un justement qui pourrait justement être beaucoup plus utile sur le terrain. Et puis, tout le monde sait qu'il a 10 poumons. Kanté, donc voilà, c'est un joueur qui... Moi, j'aime beaucoup, il est discret, mais il est efficace.
Alors, il fait moins de bruit. Et là, même quand on regarde Tolisso, des fois, on peut se demander, est-ce que Tolisso, c'est pas mieux que Pogba? Parce que Pogba, il a, entre guillemets, la chance d'avoir le prix de son transfert, sa valeur marchande, etc. Parce que ça aurait été, par exemple, Tolisso qui fait comme lui, ou n'importe quel milieu, il aurait déjà ciré le banc depuis longtemps. Depuis longtemps, quoi. Donc, son statut joue aussi pour lui.
Ça me fait un peu penser à Neymar au Brésil, dans la mesure où on sent qu'il a le jeu brésilien, voilà, qu'on sent qu'il a un jeu qui se rapproche de Messi et Cristiano, mais on sent pas le mec qui est capable de vraiment stand-up.
Il n'a pas de maturité
exactement,
dans son jeu.
C'est le manque de maturité qu'il a. C'est juste ça que je lui reproche. Son jeu, il est là, il est très bon au niveau du jeu. Mm. Mais maturité dans la tête, c'est pas possible. Il pleure à la fin du match parce qu'il a marqué un but encore pour que les médias le remarquent. Il ne s'est déjà pas suffisamment fait remarquer pour ses simulations. Il continue. Il aurait très bien pu pleurer dans les vestiaires. C'est pas un coup de gueule contre Neymar, mais j'attends qu'il soit plus mature. C'est 25 ans quand même. Hein. Bientôt 26, bientôt 27 et on continue.
Et les années passent. Les années passent très très vite. Donc,
voilà. Bon les gars, on va se quitter sur ça parce qu'il y a match maintenant.
Ah, okay. Ah oui, effectivement, c'était tellement intéressant qu'on a oublié le match.
On a bien parlé quand même.
Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et puis, on se retrouve bientôt pour débriefer les derniers matchs de ces groupes. Voilà, passez une bonne soirée et puis merci à vous. Hein.
Merci, à la prochaine.
Merci à vous aussi, les gars. Bonne soirée, bon match.